présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. 800 000 suppressions d'emplois en France dans les prochains mois. Pour la première fois, le gouvernement évalue l'ampleur de la crise sociale née de la crise sanitaire. Un troisième budget rectificatif a été présenté ce matin pour enrayer la récession. Dossier dans ce journal avec Marie Viennot. Le gouvernement qui annonce la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet prochain, mais plusieurs dispositions restrictives resteront en vigueur après cette date, les explications de Stéphane Robert. L'écho d'après, notre rendez-vous hebdomadaire consacré ce soir au pétrole. Quel avenir pour l'or noir alors que la demande s'est effondrée? Un rendez-vous proposé aujourd'hui par Anne-Laure Jumet. L'onde de choc provoquée par la mort de George Floyd incite de nombreuses entreprises à multiplier les annonces en faveur de la communauté noire. Adidas promet de réserver aux noirs 30% de ses nouvelles embauches aux États-Unis. Certains parlent d'un véritable blackwashing. Le chiffre est affolant. Le gouvernement anticipe la suppression de 800 000 emplois en France dans les prochains mois. Une estimation donnée par Bruno Le Maire devant la commission des finances de l'Assemblée en début d'après-midi. Le ministre de l'économie était venu détailler devant les députés le troisième budget rectificatif présenté ce matin au Conseil des ministres. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire.
Je voudrais répondre aussi sur cette question du chômage. Notre évaluation est que nous aurons d'ici les mois prochains la suppression de 800 000 emplois, c'est-à-dire 2,8% de l'emploi total. C'est considérable, mais ça n'est pas comparable avec la baisse de l'activité, qui est de moins 11%. Ce qui veut dire que ce choc est considérable sur l'emploi. Il doit appeler des politiques publiques massives pour soutenir, accompagner tous ceux qui sont touchés, mais nous allons amortir ce choc grâce à l'activité partielle. Grâce à l'apprentissage et au financement de l'aide à l'apprentissage, il faudra cibler des aides sur ceux qui sont les plus fragiles, les plus démunis, les moins qualifiés. Parce que c'est eux qui suscitent le plus d'inquiétude, qui sont les plus fragiles et qui peuvent être les premières victimes de la crise.
Bruno Le Maire devant la commission des finances de l'Assemblée. C'est donc pour répondre à la crise économique et sociale qui s'annonce que le gouvernement a présenté ce matin son troisième budget rectificatif. Une enveloppe d'environ 45 milliards d'euros destinée aux secteurs les plus fragilisés, à commencer par le tourisme, l'aéronautique et l'automobile. L'objectif, Marie Viennot, est de permettre à la France de sortir au plus vite de la récession.
Le gouvernement ne change pas de cap. Son soutien à l'activité économique passe par le soutien aux entreprises et d'abord par le chômage partiel qui voit son montant augmenter de 5 milliards dans ce projet de loi, ce qui porte au total son coût à 30 milliards, dont un tiers supporté par l'UNEDIC. Ce soutien passe aussi par des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, le sport, la culture, le transport aérien et l'événementiel, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs, soit parce qu'ils ont dû fermer pour des raisons administratives, typiquement les coiffeurs ou les magasins de vêtements, ou parce que même si ces entreprises ont pu poursuivre leur activité pendant le confinement, leur chiffre d'affaires a chuté de plus de 50%. On pense là notamment au BTP. Toutes ces exonérations vont peser sur le budget de la sécurité sociale, mais elles seront compensées par l'État pour un montant estimé aujourd'hui à 3 milliards. Le fonds de solidarité pour les petites entreprises est abondé une nouvelle fois à hauteur d'un milliard. Toutes ces mesures visent à soulager la trésorerie des entreprises, éviter des faillites et donc limiter les licenciements. Les jeunes seront les premiers à perdre leur emploi, car ils sont généralement les plus précaires. L'OCDE, qui publiait ses prévisions aujourd'hui, a, comme le ministre des Finances, insisté sur ce point. Mais les montants que consacre ce projet de loi pour l'embauche d'un apprenti ou pour les moins de 25 ans titulaires des aides au logement est assez faible, moins de 500 millions d'euros sur les 13 milliards de nouveaux crédits apportés par ce projet de loi.
Marie Viennot, merci. Ce choc considérable évoqué par Bruno Le Maire va frapper toute l'économie française et singulièrement les petites et moyennes entreprises, d'autant plus que les mesures de chômage partiel ne seront plus systématiques. Stéphanie Poza est la vice-présidente de la principale organisation du secteur, la CPME.
Je pense qu'il y aura une vague de licenciements assez importante. Le chômage partiel a permis quand même d'atténuer ce mouvement et de conserver les compétences en entreprise. Et notre souhait à tous chefs d'entreprise, c'est de garder nos collaborateurs. Après, quand il y a un problème d'équilibre économique, quand vous n'avez plus assez de chiffre d'affaires, eh ben, il faut faire des choix. Et le chômage partiel en étant réduit, puisqu'au départ, on était remboursé à hauteur de 100%, et aujourd'hui, on reste à notre charge 15%, se pose la question de savoir, vous vous rendez compte, c'est un salarié sur 7 salariés qui ne travaille pas dans une entreprise. Donc l'équilibre, le déséquilibre peut arriver très vite. Je prends mon exemple, je suis dans la propreté, j'ai une partie d'activité liée à l'hôtellerie, notamment sur Paris. Sur Paris, mon chiffre d'affaires, il est de zéro. J'ai plus de 60 femmes de chambre qui sont aujourd'hui en chômage partiel. J'ai pu les maintenir pour le moment en chômage partiel, mais demain, 15% de 60 femmes de chambre à ma charge, avec un chiffre d'affaires de zéro en face, il y a peut-être un moment où je vais me poser la question de savoir si je ne vais pas les licencier économiquement pour les reprendre plus tard quand l'activité va reprendre.
Stéphanie Poza, vice-présidente de la CPME, elle répondait à Hakim Kasmi. Au menu également du Conseil des ministres ce matin, la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu le 10 juillet prochain. Édouard Philippe a présenté un projet de loi qui va encadrer cette nouvelle étape du déconfinement. Stéphane Robert, le texte ne tourne pas complètement la page de l'état d'urgence sanitaire puisqu'il en reprend plusieurs dispositions.
Il y a 3 semaines encore, le gouvernement envisageait de prolonger l'état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet, mais les chiffres encourageants confirmant la décrue de l'épidémie de Covid-19 permettent aujourd'hui d'en sortir, a expliqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye à l'issue du Conseil des ministres, même si certaines mesures d'exception sont maintenues dans le projet de loi présenté ce matin.
Le Conseil scientifique a fait état de 4 scénarii. Dans tous ces scénarii, le virus existe toujours tant que nous ne disposons pas de traitement ou de vaccin, et il est donc nécessaire que nous soyons armés pour pouvoir répondre à cette situation. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité qu'il y ait une sortie sèche de l'état d'urgence sanitaire, mais plutôt une sortie en biseau pour une période transitoire de 4 mois.
Jusqu'au 10 novembre prochain, donc, le Premier ministre pourra, s'il l'estime nécessaire, maintenir l'obligation du port du masque dans les transports en commun, interdire les rassemblements, fermer les discothèques. Bref, le gouvernement va maintenir une forme d'état d'urgence qui ne dit pas son nom, selon le professeur de droit public à l'Université de Lille, Jean-Philippe de Rosier, interrogé par nos confrères de France Info.
Le gouvernement y met un terme officiellement, mais il introduit néanmoins des mesures encore exceptionnelles qui ressemblent à s'y méprendre à l'état d'urgence, mais sans le dire. Et on pourrait craindre, il faudra rester vigilant, que cela, actuellement présenté de façon temporaire, ne puisse s'intégrer de façon durable dans notre droit commun.
Il est facile d'instaurer un état d'urgence, beaucoup plus difficile d'en sortir, estiment de nombreux constitutionnalistes. Nous en avons fait l'expérience avec l'état d'urgence sécuritaire instauré après les attentats terroristes de 2015. Et quand on en est sorti en 2017, certaines dispositions ont été introduites dans la loi commune, comme les assignations à résidence ou les perquisitions administratives.
Stéphane Robert, merci. Ajoutons qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français dimanche prochain, 14 juin à 20h. Après-demain vendredi, le chef de l'État réunira à l'Élysée le Conseil scientifique, puis un Conseil de défense. Il s'agira notamment de confirmer la date du dimanche 28 juin pour le 2e tour des élections municipales. Les défenseurs de l'environnement et les acteurs du monde associatif comptent bien rappeler à Emmanuel Macron sa promesse d'engager la France dans le monde d'après. Plusieurs ONG lancent un appel solennel pour une relance verte et solidaire. Greenpeace, la Fondation Hulot, Oxfam ou le Secours catholique. Toutes ces organisations estiment que les premières mesures gouvernementales ne vont pas dans le bon sens, Véronique Robérotte.
Les solutions pour une relance verte existent bel et bien. Les ONG y travaillent depuis de longues années. Au gouvernement et au Parlement de s'emparer de leurs propositions. Arnaud Schwartz de France Nature Environnement.
Ce qu'on demande, c'est un temps de dialogue avec la société civile organisée, les parlementaires, les associations d'élus, pour que le gouvernement y voit un peu ce qui se passe dans la société de façon structurée et construite. Il y a des citoyens qui se regroupent pour avancer des solutions et le gouvernement, il a plus la confiance de la population, c'est pas à lui d'organiser ça. Il faut que ça vienne d'ailleurs. C'est à lui ensuite de voir là-dedans ce qu'il y a à prendre et d'assumer, de laisser éventuellement des choses de côté. Mais décider tout seul, sur pression des lobbies, dans l'opacité plus ou moins totale, ça ne nous va plus.
La directrice d'Oxfam France, Cécile Duflot, se réjouit qu'une relance verte et solidaire ne séduise plus seulement les militants de la question écologique.
Là où c'est très nouveau, c'est qu'on est dans un moment où c'est que y compris les syndicats et ceux où, avec qui il pouvait y avoir des tensions justement autour de la question de l'emploi, sont maintenant embarqués dans cette histoire parce qu'ils ont compris que le risque majeur, en fait, c'est celui de l'écroulement de certains secteurs de façon très brutale. On a vu ce qui s'est passé sur le secteur aéronautique. On peut arrêter quasiment au niveau mondial le transport aérien pendant des mois avec un impact très durable, et que si la relance est simplement racheter des hélicoptères et des avions militaires, vous parliez de la sincérité du gouvernement, il va y avoir un gros hic.
Le réseau Action Climat estime ce soir que le troisième projet de loi de finances rectificative fait, je cite, de nouveau l'impasse sur l'écologie.
Véronique Robérotte, merci, et vous pouvez retrouver les propositions de ces ONG pour une relance verte et solidaire sur le site du réseau Action Climat. Le pétrole est loin d'être une priorité pour les défenseurs de l'environnement. Le pétrole, c'est justement le sujet du rendez-vous hebdomadaire du service économie de la rédaction de France Culture. La crise économique née de la crise sanitaire a mis à genoux le secteur pétrolier. L'or noir est-il amené à devenir une énergie dont on pourra se passer? Et si oui, à quel horizon? Élément de réponse avec vous, Anne-Laure Jumet.
Avec une consommation mondiale de pétrole en recul de 20% en avril, sur un an, le secteur vit un choc sans précédent. Les capacités de stockage sont d'ailleurs prises d'assaut. Le Texas a même dû réinjecter sous terre les surplus de pétrole. Et les experts ne voient pas de retour à la normale avant fin 2021-2022. Mais plus structurellement, un monde moins dépendant du pétrole se dessine. Ce ne sera pas lié à cette crise ni à l'épuisement des ressources pétrolières, mais bien à une baisse de la demande, explique Philippe Copinchy, professeur à Sciences Po et expert du secteur.
Dans l'automobile, qui représente quand même le gros paquet de la consommation de pétrole, on voit qu'il y a une électrification et qui est en train de s'accélérer, ou en tout cas n'est pas en train de s'inverser malgré le fait que le prix du pétrole est devenu très bas. Le pétrole risque de subir le même sort que le charbon il y a quelques décennies. C'est vraiment du côté de la demande que ça s'est passé. Cette transition, c'est parce qu'on a arrêté d'avoir besoin de charbon, pas parce que les mines étaient tout d'un coup à sec. Est-ce que c'est pas comme ça que l'histoire du pétrole va se terminer? Les réserves de pétrole, elles ne cessent en réalité d'augmenter. Le progrès technologique permet d'améliorer les techniques de production des gisements existants. Petit à petit, l'offre, la production va diminuer parce que la demande diminue.
Alors les grands groupes du secteur ont bien conscience qu'ils vont devoir changer de modèle. Le PDG de Total se dit ainsi persuadé que le marché qui va croître n'est pas celui du pétrole, mais celui de l'électricité. Dans ces modèles, le groupe voit la demande mondiale de pétrole atteindre un plateau vers 2030. Mais si l'or noir va devenir moins prédominant comme source d'énergie, il a encore de beaux jours devant lui dans un autre secteur, explique Philippe Copinchy.
Il y a un secteur qui est particulier pour le pétrole, qui représente pas grand-chose dans la consommation, c'est 10-15%, mais c'est la pétrochimie, c'est-à-dire la fabrication de tous les plastiques, des solvants, des colles, etc. Tout ça utilise comme matière première du pétrole, et c'est effectivement une matière première extraordinaire pour produire tous ces matériaux, et ça, c'est quelque chose qui est probablement appelé à se développer, à tel point, à mon sens, que dans quelques générations, les gens regarderont les années début du XXIe siècle en se disant comment était-ce possible de brûler une matière première aussi incroyable qu'on peut utiliser pour fabriquer toutes sortes de matériaux.
Dans plusieurs décennies, les usages ne seront donc plus les mêmes, mais il y aura un décalage entre pays industrialisés et pays en développement. En Afrique, par exemple, la transition sera plus longue, avec des véhicules essence et diesel qui mettront du temps à être supplantés par l'électrique. On peut donc même parler de fracture. Le pétrole deviendra alors l'énergie des États qui n'ont pas les moyens d'assumer les technologies les plus avancées.
L'écho d'après d'Anne-Laure Jumet à retrouver en longueur sur franceculture.fr. C'était le 3 octobre 2019 à Paris. Ce matin-là, un agent de la direction du renseignement de la préfecture de police, Michael Harpon, tué à l'arme blanche 4 de ses collègues avant d'être abattu. Et pour examiner les dysfonctionnements ayant conduit à cette tuerie islamiste, une commission d'enquête parlementaire avait été créée. 8 mois plus tard, son rapport a été examiné ce matin à huis clos. Ce rapport est enrichi d'une trentaine de propositions, un véritable arsenal de mesures destinées à répondre aux failles de sécurité de la préfecture de police. Maître Géraldine Berger-Stinger est l'avocate de la famille de victimes et pour elle, le rapport confirme la gravité de ces failles.
Les conclusions sont consternantes, hein, puisqu'elles concluent au fait qu'il y a eu des failles de sécurité au sein d'un service de renseignement de la préfecture de police de Paris. Donc déjà, d'un point de vue général, c'est très préoccupant. Et puis, à la lumière des faits d'octobre 2019, c'est vrai que pour les familles endeuillées, elles sont particulièrement choquées par ces conclusions. Le rapport parlementaire nous explique que des signaux, certes faibles, mais des signaux de radicalisation étaient connus et visiblement, il n'y a pas eu de remontée dans toute la chaîne hiérarchique. Donc, c'est qu'à un moment donné, les personnes qui ont été averties ont d'elles-mêmes pris l'initiative de ne pas faire remonter ces informations qui étaient pourtant cruciales.
Qu'est-ce que vous réclamez ?
Nous, on réclame que toute la lumière soit faite sur l'ensemble des failles, que les responsabilités à chaque niveau hiérarchique soient recherchées, que des sanctions soient prises et qu'une réorganisation en profondeur ait lieu pour que cet événement tragique ne se reproduise plus.
L'avocate Géraldine Berger-Stinger répondait à Antoine Maretz. La mort de George Floyd est-elle en train de favoriser le blackwashing? Sous couvert d'afficher leur engagement contre le racisme, certaines grandes entreprises ne cacheraient-elles pas de simples ambitions commerciales? Alors que le monde entier rend hommage à ce père de famille noir tué par un policier le 25 mai à Minneapolis, on peut assister depuis quelques jours à une surenchère de bonnes intentions de la part de sociétés de dimension mondiale. Chacune rivalise d'originalité pour montrer qu'elle a entendu la colère de la rue contre le racisme. Twitter, Facebook, Adidas enchaînent les annonces, Nathanaël Charbonnier.
Adidas tout d'abord a promis d'embaucher à l'avenir 30% de personnes noires ou d'origine latino-américaine. Mais la marque aux trois bandes va aussi dépenser 20 millions de dollars dans les 4 ans à venir dans des programmes de soutien à la communauté noire. Twitter, de son côté, a décidé d'avoir un geste fort puisque son PDG Jack Dorsey va créer un jour férié pour ses salariés tous les 19 juin. 19 juin, date aux États-Unis de la fête qui commémore l'abolition de l'esclavage. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, va lui faire un chèque de 10 millions de dollars destiné à ceux qui travaillent sur le thème de la justice raciale. Facebook, Twitter, Adidas, mais on pourrait ajouter aussi General Motors, YouTube, McDonald's, Snapchat ou encore Apple qui doit faire un don à des associations œuvrant contre le racisme. L'initiative qui pose toutefois le plus question est attribuée à la plateforme de streaming HBO Max qui a retiré de son catalogue le film « Autant en emporte le vent » qui donne une vision jugée trop édulcoré de l'esclavage. Or, après réflexion, HBO envisage de remettre le film en ligne, mais avec un commentaire pour expliquer le contexte de ce film réalisé en 1939. Enfin, il n'y a pas que les entreprises qui tentent de montrer qu'elles ont compris que le monde a changé. En politique aussi, les choses bougent. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle Joe Biden pourrait choisir une colistière noire pour mener campagne avec lui.
Nathanaël Charbonnier, merci. En Suède, la justice referme l'enquête sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre Olof Palme en 1986 à Stockholm. Le procureur chargé du dossier estime que le meurtrier présumé a été identifié, Stig Engström, un opposant radical aux idées de gauche d'Olof Palme. Stig Engström est mort en 2000 et son décès justifie la clôture de l'enquête aux yeux de la justice suédoise. La police italienne vient de retrouver une œuvre de Banksy, une porte du Bataclan à Paris décorée par le roi du street art. La porte rendait hommage aux victimes du terrorisme dans la salle de concert parisienne, meurtrie par les attentats de 2015. L'œuvre avait été dérobée en janvier 2019 et c'est donc en Italie qu'elle a été retrouvée. Bruce de Galzin nous appelle de Rome.
C'est dans une ferme des Abruzzes, dans le centre de l'Italie, que l'œuvre a été retrouvée. Elle serait intacte, et c'est grâce à la collaboration de la police et de la justice française que les carabiniers et le procureur de L'Aquila ont ordonné la perquisition de cette ferme et ainsi mis un terme à près d'un an et demi d'enquête. C'est en juin 2018 que Banksy peint une jeune fille triste, tête penchée, en blanc sur le fond noir de la porte de sortie de secours de l'arrière du Bataclan. Mais la porte entière est volée 6 mois plus tard, découpée à la meuleuse et emportée dans un camion. Une porte par laquelle certains avaient réussi à s'échapper le soir de l'attentat terroriste du 13 novembre 2015 qui a provoqué la mort de 90 personnes. Banksy leur rendait hommage et le Bataclan avait choisi de garder l'œuvre sur la sortie de secours libre dans la rue, accessible à tous. Au Bataclan maintenant de décider où l'exposer.
Bruce de Galzin, notre correspondant en Italie, toujours en Italie, cette information émanant du parquet de Bergame, la justice italienne. Le parquet de Bergame, en l'occurrence, va entendre le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte dans le cadre d'une enquête sur la gestion de l'épidémie du Covid-19 qui a fait plus de 34 000 morts dans la péninsule. Retour en France avec le temps demain qui restera souvent frais et pluvieux sur la façade atlantique. Le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange pour de fortes pluies. Sur les autres régions, le temps sera plus sec malgré un ciel souvent couvert. Le matin, le thermomètre évoluera entre 7 et 15 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales iront de 14 à 23 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.